Radio Prague, les informations.
Karel Schwarzenberg a été élu président du nouveau parti Top 09. Prague est satisfait du portefeuille de son commissaire européen Stefan Füle. Les Verts proposent une certaine réduction des compétences présidentielles. Comme prévu, Karel Schwarzenberg, ancien chef de la diplomatie, a été élu président du parti Top 09 lors de la deuxième journée de la première assemblée de ce nouveau parti pro-européen de droite fondé l'été dernier par Karel Schwarzenberg lui-même. Lors de ce meeting qui a rassemblé près de 170 délégués, il s'agissait aussi de définir les organes de fonctionnement du nouveau parti. Selon Miroslav Kalousek, ancien ministre des Finances, actuellement numéro 2 du top 09, le parti insiste avant tout sur une réduction considérable du déficit des finances publiques. Prague se déclare satisfait du portefeuille de son commissaire européen Stefan Füle, qui sera chargé de l'élargissement et qui implique également la politique de voisinage. C'est pour Prague un portefeuille plus fort que prévu. Selon le Premier ministre Jan Fischer, Stefan Füle, vu sa précédente expérience diplomatique, pourra accomplir avec succès sa mission. Ce lundi, le gouvernement de Jan Fischer étudiera la proposition du Parti des Verts qui stipule une certaine réduction des compétences présidentielles. C'est une réaction à l'attitude du président Václav Klaus vis-à-vis du traité de Lisbonne et à ses hésitations avant sa signature de ce document. Pendant ce week-end, les deux plus importants marchés de Noël dans le centre de Prague ont ouvert leurs portes. Le marché sur la place de la Vieille Ville a été ouvert au public samedi, tandis que celui sur la place Venceslas s'est ouvert ce dimanche. Le nouveau projet intitulé Kutná Hora disparue a pour but de présenter les différentes facettes de cette ville historique qui est inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, ceci depuis le XVIIe jusqu'au XXe siècle. À cette fin, des dizaines d'images et de photographies de la ville de Kutná Hora seront mises à partir du 1er décembre sur Internet. Le projet veut également sensibiliser les habitants et les visiteurs de la ville sur sa beauté et sur son patrimoine architectural. Le cinéma Aéro de Prague propose pour la première fois une rétrospective des meilleurs films musicaux présentés depuis 2003 au Festival international du film de Karlovy Vary. Ce dimanche 29 novembre, après une matinée brumeuse et nuageuse, le ciel est presque dégagé et offre quelques belles éclaircies. À Prague, par exemple, les températures diurnes se situent autour de 9 degrés pour les maximales. Ce dimanche, nous fêtons toutes les Zina, selon le calendrier local. C'était le journal présenté par Alena Gebertova. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Le 12e festival du film français s'est achevé mercredi dernier. Parmi les nombreux invités cette année, le réalisateur Laurent Tirard qui venait présenter son dernier film, une adaptation du célèbre Petit Nicolas.
Moi c'est Nicolas. Ma vie elle est chouette. Je veux surtout pas qu'elle change.
Le petit Nicolas fait partie de ces héros français connus des Tchèques, puisque les livres ont été traduits et publiés en Tchécoslovaquie dès les années 70. Comédie familiale, le film sortira donc sur les écrans tchèques en version doublée le 10 décembre prochain.
Et ça, maman, ça l'énerve.
Il t'exploite et toi, tu te laisses faire.
Très bien, bah, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte.
Oh, chouette!
Laurent Tirard, vous étiez venu il y a 2 ans pour le Festival du film français et déjà à l'époque, vous nous aviez dit que vous alliez adapter le petit Nicolas. C'est chose faite aujourd'hui. Première question, comment est-ce que vous est venue l'idée d'adapter le petit Nicolas? C'était un livre que vous lisiez autrefois?
C'était un livre que je lisais autrefois, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'idée n'est pas venue de moi. C'est marrant parce que c'est vrai que d'habitude, ce genre de projet, c'est quelque chose qu'on porte en soi depuis longtemps. Et en fait, non, un jour, c'est mes producteurs, ceux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, qui m'ont passé un coup de téléphone et qui m'ont dit « on a eu une idée pour toi, on pense que tu devrais adapter le petit Nicolas ». Quand ils m'en ont parlé, j'ai dit « bah oui, bien sûr ». Bien sûr.
Comment je n'y ai pas pensé avant?
Comment n'y ai-je pas pensé avant? Non, mais c'est vrai parce que, bon, d'abord, je pense que le projet en lui-même était excitant. Mais surtout, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais le sentiment intuitivement que ça me correspondait. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on m'aurait proposé d'autres BD, même Tintin. J'aurais dit, oh non, je crois que c'est pas pour moi ça. Mais là, tout de suite, j'ai l'impression que tout de suite j'ai vu dans ma tête à quoi pouvait ressembler le film. Et à partir de là, j'ai foncé dans le projet.
Est-ce qu'il faut avoir une âme d'enfant pour tourner le petit Nicolas ?
En tout cas, alors je ne sais pas s'il faut avoir une âme d'enfant, mais en tout cas, il faut pouvoir se reconnecter avec son âme d'enfant. Enfin, je veux dire, il faut pouvoir redevenir un enfant pour faire ce film-là. Clairement, c'est ça qui fait la force du petit Nicolas, c'est que Goscinny, il écrit en se remettant à hauteur d'enfant. C'est ça qui est dingue. On a l'impression que c'est un... Bon, on voit très bien que c'est un adulte qui a écrit, mais on retrouve cette musique. On a vraiment l'impression que c'est vu à travers les yeux d'un enfant. Et pour faire le film, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je pense que c'est pas possible autrement. Autant quand je fais un film habituellement, j'essaye de faire le film que j'ai envie de voir. Mais là, je pense que il fallait que je fasse le film que j'aurais eu envie de voir enfant. Donc vraiment, se remettre à hauteur d'enfant, mais pour tout, pour l'écriture, pour la direction d'acteur, pour les cadres, tout ça. Il fallait pouvoir revenir en enfance. Ouais.
Alors justement, vous dites direction d'acteur, alors ce sont des jeunes acteurs pour le coup. Comment se passe un casting pour choisir des personnalités, en fait, pour représenter ces différents personnages qu'on connaît tous, Agnan, en dehors du petit Nicolas, hein, Clotaire, etc. On peut dire qu'ils ont vraiment des bonnes bouilles quand on les voit dans votre film, mais j'imagine que vous avez dû en voir des dizaines.
Ah non, j'en ai vu des centaines. On en a vu 800, des enfants. On a vu beaucoup parce que l'enjeu était gros. C'est-à-dire que les gens avaient lu Le Petit Nicolas, ils avaient tous une idée quand même de ce à quoi devait ressembler. Le film reposait sur les épaules des enfants quand même beaucoup, donc il fallait qu'il soit très bon. En plus, moi je voulais des enfants qui aient jamais joué. J'avais déjà vu des enfants acteurs, je ne trouvais pas très naturel. Et je pensais qu'il fallait que les enfants dans le film, ils aient cette innocence encore et cette spontanéité, ce naturel. Mais pour trouver des enfants qui n'ont jamais joué et qui soient bons, bah, il faut en voir beaucoup. Il y a une première chose qui frappe tout de suite quand ils rentrent dans la pièce, c'est est-ce qu'ils ont une personnalité intéressante ou pas. Ensuite, on leur a donné un texte à lire, un texte à apprendre. Donc, ce sont des enfants, donc ils arrivent et ils font comme à l'école, ils répètent par cœur, voilà, comme ils réciteraient une poésie. Na, 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 na. Ils annonnent, exactement. Ben là, à nouveau, c'est très simple. Hein. Vous leur dites, ne récite pas, parle-moi, dis-moi la même chose comme tu parlerais dans la vie réelle. Et là, il y en a 90% qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah oui, d'accord », et puis ils se remettent à annoncer. Voilà. Et là, on dit « Bon, ok, ça ne marchera jamais ». Et puis il y en a 10% qui percutent, qui disent « Ah oui, comme dans la vie réelle, d'accord bon. ». Et là, ils le font et on se dit « Ah, toi, tu m'intéresses ». Après, il y a toujours une part de... Il y a toujours un pari avec les enfants parce que c'est pas parce qu'ils sont bons au moment du casting qu'ils seront bons sur le tournage. C'est-à-dire que... un enfant, il peut être totalement pétrifié par une équipe de tournage. De fait, enfin, même cela, hein, quand ils sont retrouvés le premier jour sur le plateau avec la caméra, l'équipe technique, les micros, les lumières, tout ça, comme on dit à leur âge, ils faisaient moins les malins, quoi. Mais aussi bien, on pourrait avoir des mauvaises surprises, quoi.
Et vous n'en avez pas eu ?
Non, mais on les a fait beaucoup travailler avant. C'est vrai qu'avec les enfants, on peut faire le choix de jouer sur la spontanéité totale, mais dans un film comme Le Petit Nicolas, c'est pas possible parce que les dialogues sont très très écrits. Et en plus, moi, je voulais qu'ils parlent d'une façon bien spécifique, comme dans les films des années 50. Et c'est pas du tout naturel comme façon de parler. C'est quelque chose de très droit et très dynamique où on envoie les phrases comme ça. Donc ça voulait dire beaucoup beaucoup de travail en amont. Donc on les a beaucoup fait travailler en amont. Du coup, j'ai pu me rendre compte assez tôt quand même de s'ils allaient tenir le coup ou pas, quoi.
Vous dites que vous les avez fait jouer comme dans les années 50. Enfin, moi, ça m'a frappé par exemple la scène où ils se retrouvent dans cette espèce de terrain vague avec ces immeubles qui se construisent à côté. Moi, j'ai pensé à mon oncle, hein, Tati.
Bien sûr. Bon, d'abord, pour moi, c'était la référence. Il y a eu plusieurs films comme ça qui m'ont inspiré, mais quand même, la référence, c'était mon oncle, de Tati. À la fois visuellement, le charme, aussi ce truc que j'aimais beaucoup, que je voulais avoir dans le film, de cette France, à la fois dans le fantasme de la modernité. On est dans l'après-guerre et on voit bien qu'ils ont envie de devenir comme les Américains. Ils rêvent de modernité et tout ça. Et en même temps, ils restent foncièrement français et ils sont très maladroits face à cette modernité. Enfin, et ça, je trouvais ça très, très touchant. Et je voulais que le film soit comme ça, avec ce côté en même temps ils croient au progrès. Ouais, ils ont l'impression dans ces années-là que l'avenir va être super, etc. Et oui, mais à tel point que moi aussi, je voulais le même terrain vague que dans mon oncle. Et le terrain vague où on a tourné en Belgique, d'abord, le terrain vague en lui-même était vraiment super. Mais j'ai fait rajouter en post-production ces immeubles en construction. Ils sont pas du tout. Mais parce que il fallait qu'il y ait ça. À nouveau, dans mon oncle, ce qui me plaît, c'est on voit, il y a la ville traditionnelle, puis il y a la ville moderne qui est en train de pousser, de sortir de terre. Et
qui grignote un petit peu justement cette ville traditionnelle vieillotte.
Exactement. Et ça, je voulais qu'il y ait ça dans le film. Ouais.
Travailler avec Anne Goscinny, qui a été conseillère sur le tournage. Comment ça s'est passé? Parce que je crois savoir qu'à la base, elle voulait pas vendre les droits du petit Nicolas.
C'est Anne qui gère les droits du petit Nicolas. Et effectivement, quand j'ai rencontré Anne, elle m'a dit qu'elle avait refusé beaucoup de propositions d'adaptation, principalement parce qu'à chaque fois, on lui proposait de l'argent, mais que personne ne lui avait encore proposé une vision artistique du projet. Et elle, d'abord, je pense qu'elle n'a pas particulièrement besoin d'argent, enfin, je veux dire, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Enfin, et j'ai compris, en parlant avec elle, à quel point le petit Nicolas était un projet très personnel de son père. Elle prenait soin du petit Nicolas comme si c'était un enfant. Autant, Astérix pouvait vivre sa vie sur grand écran, Lucky Luke, Is No Good, tout ça. Mais le petit Nicolas, il fallait en prendre soin. Et elle ne voulait pas le confier à n'importe qui. Et donc, on a beaucoup parlé et je suis revenu la voir 2 mois plus tard, avec un projet artistique, avec une histoire surtout. Avec cette histoire qui n'était pas dans le petit Nicolas, mais que j'ai proposé autour de la peur de l'abandon. Nicolas pense que ses parents vont avoir un autre enfant, qui va être abandonné, etc. Et ça lui a beaucoup plu. Donc c'est vraiment, je dirais là-dessus, à partir de cette histoire, que tout s'est déclenché. Et ensuite, Anne a eu effectivement un contrôle assez actif sur le scénario. En fait, pas du tout sur le tournage. Toutes les étapes d'écriture ont été suivies très minutieusement par Anne, qui nous a fait ses commentaires, des remarques. Il y a eu des débats parfois, qu'on a perdu parfois, qu'on a gagné d'autres fois. Il y avait des interdits, alors pas de gros mots. Il n'y a pas de gros mots dans Petit Nicolas. Alors on a essayé d'en mettre une fois ou deux, elle a dit non. À un moment, on voulait que Rufus, la première fois qu'on voit Rufus et qu'il fait rire ses copains, on avait écrit une petite chanson sur le bouillon et c'était vraiment comme dans La Guerre des Boutons, quoi. Il disait le bouillon qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette, enfin un truc comme ça. Elle a dit non. On a dit bon d'accord, alors on lui a fait faire des grimaces à la place. Et puis une fois qu'elle a donné son feu vert sur le scénario, on est parti tourner. Elle est passée deux fois sur le tournage, mais plus pour se faire plaisir qu'autre chose.
Et Jean-Jacques Sampé?
Il a dit d'entrée de jeu qu'il voulait absolument pas participer. Enfin, il était d'accord pour vendre ses droits. Lui, il pensait foncièrement que c'était pas une bonne idée de faire un film du petit Nicolas. Mais je le comprends. Je veux dire, de son point de vue de dessinateur, d'auteur, il disait, ce sera forcément une trahison. Donc, je veux bien vendre les droits. Allez, faites le film. Après tout, il faut que le personnage vive, tout ça. Mais il voulait pas participer au processus créatif.
Mais il était content du résultat après?
En revanche, on lui a montré le film une fois qu'il était fini. Et il a eu cette phrase très gentille. Il a dit, très gentil, oui, plein d'humour en tout cas. Il a dit, je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Mais je crois qu'il se préparait au pire. Et puis, d'une certaine façon, je le comprends. Hein.
Dernière question, le petit Nicolas, alors, est publié dans le monde entier, ici en République tchèque, il est publié depuis les années 70, les gens connaissent Malim Mikuláš, et donc du coup c'est vrai que c'est un personnage familier pour les Tchèques. Comment est-ce que vous expliquez justement ce succès du petit Nicolas? Alors c'est son universalité, que disons que tout le monde peut se retrouver dans cet écolier un peu malicieux.
Ben oui, déjà ce qui est frappant c'est que... Ça a été écrit dans les années 50, mais Sempé et Goscinny disent eux-mêmes que déjà dans les années 50, c'était démodé le petit Nicolas, parce que eux, c'était basé sur leur souvenir d'enfance des années 30. Et on voit bien qu'il y a un côté totalement intemporel dans le petit Nicolas. Je l'ai montré dans des tas d'écoles, je l'ai montré parfois dans des banlieues défavorisées, où ça n'a rien à voir. Et ils étaient fascinés. Mais ils étaient fascinés par... En fait, ils se retrouvaient dans le film. Alors que, voilà, à l'écran, on a des petits écoliers qui sont
en culotte courte
avec des petites cravates. Et là, il y a des enfants qui sont avec des joggings et des casquettes à l'envers et tout. Et ils disent « Ah, mais Clotaire, c'est moi !» Ou « Ah, mais moi, je suis plutôt Agnan !» Voilà. En fait, on voit bien que finalement, c'est pas important le décor. Le décor, même, bon, ça c'était mon point de vue, mais moi, je pensais que ça aurait été vraiment une erreur fondamentale de l'adapter de nos jours. Parce que pour moi, le petit Nicolas, c'est pas la réalité, c'est un conte. Et donc, comme dans un conte, il faut dire « il était une fois » et il faut mettre un décor qui soit ouvertement fictif et des costumes, etc. pour qu'on l'accepte comme un conte et qu'on en accepte le sens symbolique. Et on voit que ça fonctionne, en fait. Que ça soit en termes de génération, toutes les générations lisent le petit Nicolas et en retirent la même chose. Et puis, à travers... Alors après, il faut des bonnes traductions, j'imagine, mais dans d'autres pays aussi, quoi, c'est pareil.
Un projet de film là
plein de projets. Le prochain c'est un film anglais que normalement je devrais tourner l'année prochaine en Angleterre. Le scénario est écrit déjà. Un film en anglais avec des acteurs anglais que j'ai pas écrit, qui est écrit par deux scénaristes anglais. C'est un scénario sur lequel je suis tombé il y a un an et que j'adore et voilà, et qui est très très différent, qui est une comédie noire très anglaise avec des histoires de meurtre et de sexe et voilà, pas du tout pour les enfants là. Pas possible. Interdit au moins de 13 ans, là, je pense.
Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes.
Je veux un petit frère !
Mon invité cette semaine dans Culture sans frontières était le réalisateur Laurent Tirard qui présentait son dernier film, Le Petit Nicolas. Vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Faut que tu faillotes.
Comme ça, elle croit que t'es très mignon et elle pourra plus t'abandonner.
Ouais. Alors, j'ai tout fait pour plaire à maman.
Elle est très belle, ta fleur, mon chéri.
Mais ça n'a pas suffi.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gregorova.
Aujourd'hui, nous vous emmènerons à la fête d'hiver de la Saint-Jacques qui a eu lieu récemment à l'église baroque Saint-Jacques du couvent des Cordeliers à Prague et à laquelle Jarka Gregorova a assisté.
Le point principal de la fête était un concert traditionnel d'orgue. Et les invités se sont retrouvés un peu sur le territoire français, puisque c'est justement en ces lieux que le roi de Bohême, Jean de Luxembourg, a épousé la princesse Eliška Přemyslovna, devenue plus tard Béatrice de Bourbon. Au son de l'orgue, fabriqué au XVIIIe siècle, les œuvres de Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Claude Balabastre, Wolfgang Amadeus Mozart et lui, Lefebvre Velli, ont été jouées. Les artistes Ludmila Wernerova, soprano, Irena Kshipkova, trompette et Jan Werner, orgue, ont présenté une très belle performance. Il est à noter que l'orgue compte 8277 tuyaux et que le bénéfice de la vente de bienfaisance, qui faisait partie de la fête, sera consacré à la reconstruction de l'orgue de l'église Saint-Jacques. le concert d'orgue était suivi d'une réception où le canard au chou rouge avec des boulettes de pâte bouillies, les knedliki et le ragoût de chevreuil ne manquaient pas. Bien évidemment, il y a eu aussi une dégustation des vins de la Saint-Martin et de l'hydromel produit dans la région de Vřebec en République tchèque. Il existe 7 types d'hydromel et chaque type est différent. Le choix dépend du client. Ce sont probablement les Celtes qui produisaient ce liquide en premier. Puis, la tradition a été reprise par les Slaves. Au festival de Montpellier, qui a eu lieu en septembre dernier, les premiers prix ont été remportés par les producteurs de la République tchèque. Jiří Machata, sommelier et gérant de la société Vivat Vino, parle des produits qu'il a présentés à la dégustation.
V měsíci září ukázal, že české medoviny patří nebo české a slovenské medoviny.
Je viens faire la dégustation deux fois par an pour la fête de l'orgue en hiver et en été, mais c'est la première fois que j'ai présenté les vins de la Saint-Martin et du Beaujolais nouveau. C'est parce que cette fois la fête a lieu en novembre, mois de la tradition des vins de la Saint-Martin. J'ai eu l'idée de rappeler aux gens cette tradition, mais par exemple, l'année dernière, j'ai présenté en dégustation des vins rouges moraves et français. À chaque fois, je présente tout de même un échantillon d'hydromel, car l'hydromel fait partie des boissons qui sont depuis longtemps liées à notre pays. Et c'est la boisson alcoolisée la plus ancienne sur notre territoire. J'essaie de montrer aux gens qu'il n'y a pas seulement du bon vin tchèque, français et morave, mais également de l'excellent hydromel. D'habitude, je présente en dégustation l'hydromel du cloître, puisque nous sommes au couvent des Cordeliers. Et la dernière fois, j'ai présenté l'hydromel à l'ancienne. Il y a 2 ans, j'ai présenté les 7 types d'hydromel. Au début, les gens étaient un peu réticents, car ils perçoivent cette boisson comme secondaire. Mais aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris. Les invités sont venus directement demander de l'hydromel en dégustation. Je suis très heureux qu'ils l'apprécient et qu'ils reviennent pour en goûter.
Která je už tradiční, přišli cíleně pro bedovinu, tak jsem velice rád, že jim zachutnala a že se k ní vrací.
Dans le cadre de la fête, il y avait une exposition de minéraux de la mine de Svornost qui se trouve près de la ville thermale de Jáchymov en Bohême de l'Ouest. Les invités pouvaient admirer l'aragonite, la calcite, la dolomite avec quartz, le quartz avec calcite ou le schiste micacé. Dans le temps, Svornost était une mine d'argent. À cette époque, on frappait à Jáchymov des crocs en argent. Le croc est considéré comme le prédécesseur du dollar et l'original du croc est actuellement exposé à l'hôtel royal de la monnaie à Jáchymov. Ensuite, la mine est devenue un gisement d'uranium exploité par les prisonniers politiques des années 1950. Actuellement, la mine n'est plus exploitée, mais elle n'est pas fermée. On puise de ses profondeurs de l'eau de radon qui provient de 4 sources principales. L'eau est utilisée pour le traitement des organes locomoteurs. En 2008, la ville de Jáchymov a été déclarée ville thermale de l'année pour le traitement par radon. Il paraît que la concentration de radon dans l'eau est la plus importante au monde, ce qui est probablement vrai car beaucoup de clients viennent de l'étranger pour se faire soigner.
Et c'est ainsi que se termine l'émission en français de Radio Prague. Mais avant de se séparer vraiment, comme nous sommes le premier dimanche de l'Avent, je vous propose d'écouter encore une jolie pastorale tchèque. Thank you.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz, y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.300.